France Culture, les matins d'été.
Même réduit, le programme est impressionnant. Opéra, théâtre, concert, symphonique ou récital, plus d'une centaine d'événements sur un mois et un centenaire sauvé. Le coronavirus, qu'on se le dise, n'aura pas empêché la tenue du festival de Salzbourg cet été. Et vous y serez dans quelques jours. Renaud Capuçon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous y serez pour un récital avec la pianiste Martha Argerich le 20 août. Et c'est vrai que l'on voulait commencer avec Salzbourg parce que c'est important de se dire que ce festival existe en cet été si particulier, Renaud Capuçon.
Mais c'est plus qu'important. Salzbourg, c'est le grand festival européen. Et j'ai trouvé remarquable et tout à fait presque normal qu'ils tiennent malgré les circonstances. Quand je dis presque normal, ça n'a pas été le cas de beaucoup de festivals qui ont été obligés ou contraints d'annuler. Il se trouve que Salzbourg a fait preuve de beaucoup de courage. Ils ont travaillé énormément depuis le mois de mars. J'ai suivi quasiment semaine après semaine leur évolution dans la programmation. Ils ont fait totalement remis à plat leur festival et rendu les places. Enfin, c'est toute une organisation très complexe. Tout ça pour dire que ils ont quand même tout un mois de musique. Et je pense que pour tous les amoureux de la musique classique, au-delà de ceux qui peuvent venir à Salzbourg, mais en tout cas pour l'image que ça donne comme espoir à tous les musiciens et à tous les gens qui viennent au concert, c'est très très positif.
Alors il s'est ouvert effectivement au début du mois, il y a des mesures sanitaires très strictes, hein, évidemment, mais il a donc bien lieu. Nous allons parler avec vous, Renaud Capuçon, du moment du confinement, mais depuis qu'il est terminé, vous avez repris les concerts nombreux, vous étiez au Festival de la Rock d'Anteron il y a quelques jours, vous avez joué à Arles cette semaine. Comment vivez-vous cet été, ce moment où l'on profite de ce dont on a été privé, tout en ne sachant pas trop où l'on va ?
Ben, vous l'avez bien résumé. Voilà la situation exactement comme je la vis et comme on est nombreux à la vivre. En tout cas, ceux qui ont la chance de pouvoir rejouer un peu. Ce sont des vacances où les vacances se passent en fait sur scène. C'est-à-dire que c'est sur scène qu'on a l'impression de revivre. Mmh. Moi, j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de pouvoir rejouer quelques concerts. Tout d'abord, début juin, avec des captations sans public, ce qui était très spécial, mais quand même plaisant, parce que déjà, je pouvais jouer. Et puis les derniers concerts que j'ai fait avec du public, c'est vrai que c'est merveilleux et on se rend compte à quel point l'intensité qu'on a en ce moment sur scène, quand on a la chance de pouvoir y être, elle est décuplée par rapport à ce qu'on vivait avant. Alors ça ne veut pas dire que les 20 ans de concerts que j'ai donnés derrière moi sont des concerts où il n'y avait pas d'intensité, mais comme on ne sait pas si on ne va pas en être privé à nouveau dans les mois qui viennent, on profite de chaque note, de chaque instant de façon beaucoup plus dense et beaucoup plus forte. Je pense que le public, c'est la même chose. Alors, il y a des situations différentes, des endroits où vous avez une place sur deux, vous avez des endroits où le masque est maintenant obligatoire. Et je pense que ça devrait vraiment être la règle. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse, dans les mois qui viennent, pouvoir rouvrir toutes les salles de concert classiques qui sont bien en dessous des jauges de 5000 places, évidemment, et accepter de façon, à mon avis, extrêmement pragmatique et logique, que tous les spectateurs puissent être assis à côté avec un masque. Je vois pas comment on peut attraper plus le virus dans une salle de concert assis à côté de quelqu'un que dans un train où on est dans un volume extrêmement restreint, où on est à côté effectivement de quelqu'un aussi. Et on a beau me parler de l'air qui se renouvelle, dans l'avion, je veux bien le croire, dans un train, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Donc, pour nous, les musiciens, je crois que vraiment, c'est une chose extrêmement importante et qui nous apaiserait beaucoup de savoir qu'on va pouvoir donner nos concerts et que le public pourra venir à partir du moment où tout le monde respecte ses règles.
Oui, effectivement, il y a une question de cohérence, on va dire, que vous soulevez comme d'autres, et puis de cohérence et puis de clarification aussi, quelque part, même si on sait que c'est très compliqué de savoir comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Est-ce que vous demandez justement au gouvernement d'être peut-être un peu plus clair sur les conditions dans lesquelles vont pouvoir ou non se passer les concerts à la rentrée dans les mois qui viennent?
Ben vous l'avez fait pour moi, c'est très bien. Moi, non, j'ai rien à demander spécialement au gouvernement.
Vous savez, Renaud Capuçon, que vous avez quand même une voix qui porte de par votre notoriété. Donc, vous pourriez demander, en tout cas.
Bien sûr, j'en ai parlé à Roselyne Bachelot quand je l'ai vue juste après qu'elle ait été nommée ministre de la Culture. On s'est rencontrés rue de Valois et je lui ai exposé tous les sujets qui me semblent être essentiels dans cette période, notamment cette aide dont on a parlé au tout début pour toutes les personnes. Là, je ne parle pas des intermittents, je ne parle pas des gens qui sont dans des orchestres qui sont un peu protégés, mais tous les indépendants qui représentent à peu près 600 personnes en France et qui n'ont toujours absolument rien reçu du gouvernement. Et je pense que c'est essentiel que tous ces gens qui sont dans une grande fragilité puissent toucher 2 000 ou 3 000 euros. On ne parle pas de millions. Donc je pense que toutes ces choses-là sont importantes, comme celles dont on vient de parler. Et oui, j'aimerais qu'il y ait une phrase claire qui dise que les salles de spectacle peuvent être occupées par des gens masqués de façon normale et qu'on puisse nous-mêmes reprendre nos concerts. J'aimerais que ça soit le cas. D'un autre côté, je comprends très bien le fait que cette situation de Covid est extrêmement complexe à gérer parce que chaque profession défend son beefsteak, si je peux m'exprimer ainsi, en disant que si on ne fait pas des efforts, ça. Donc le gouvernement a un travail extrêmement compliqué, ça je l'entends aussi. Mais très franchement, j'ai l'impression que cette demande est assez juste et qu'elle me semble tout à fait raisonnable. Voilà.
Alors, dans votre livre, votre autobiographie Un mouvement perpétuel qui est sorti en mars chez Flammarion, vous expliquez, Renaud Capuçon, que vous êtes un musicien du collectif. Votre bonheur est de jouer aussi avec les autres et le vin à Salzbourg. Ce sera donc avec la grande pianiste Martha Argerich. Vous avez joué ensemble pour la première fois en 2002 et dans ce livre, vous écrivez « On a tout dit sur Martha et souvent des bêtises ». Alors pour parler un peu de musique, parlez-nous d'elle justement et de ce que c'est que de jouer avec elle.
Écoutez, j'étais encore avec elle en Suisse la semaine dernière. C'est une musicienne exceptionnelle qui a un sens inné du rythme, qui a une assise rythmique absolument incroyable. On connaît sa virtuosité, on connaît sa façon incroyable de déclamer des phrases musicales, on connaît sa dextérité, tout ça est une évidence. Mais ce qui me fascine le plus chez elle, elle a maintenant près de 80 ans, c'est cette jeunesse dans l'interprétation, cette volonté de remettre à plat chaque fois qu'on joue une œuvre, on la retravaille, on la remet sur le tapis de façon presque vierge. Et au moment du concert, une jubilation de l'improvisation. C'est-à-dire, bien sûr qu'on joue les notes, mais quand je dis improvisation, c'est on a l'impression de se retrouver dans une autre sphère que celle de l'interprétation, qui est une sphère de l'improvisation, où on se retrouve et là, on gambade ensemble. Et c'est totalement, pour un interprète, de jouer avec elle. C'est une des choses les plus exceptionnelles qui puissent arriver. Et pour parler d'elle en tant que femme, c'est une femme qui est libre, qui est extrêmement changeante d'humeur, mais comme on est tous, mais elle est peut-être un peu d'une façon plus radicale, c'est-à-dire qu'elle peut être d'une humeur absolument ensoleillée à un instant, et puis il y a un nuage qui arrive immédiatement, tout d'un coup on le sent arriver, qui n'a rien à voir avec vous, et puis le nuage passe, et puis tout d'un coup elle repart dans une espèce d'éclat de rire. Bon, c'est très difficile, encore une fois, d'en parler, parce qu'il faut vivre Martha Argerich, il faut la connaître pour en parler. C'est pour ça que je dis que souvent, je préfère ne pas parler d'elle et plutôt la laisser jouer, l'écouter, parce que dans son jeu, on retrouve toute cette personnalité solaire et cette humanité de femme qui aime énormément les autres. Ça, on le sait peu, parce qu'elle communique très peu là-dessus, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui aide énormément de gens depuis toujours. Qui est en permanence des jeunes pianistes autour d'elle, qu'elle conseille et qu'elle aide même financièrement parfois.
Alors nous allons vous écouter justement tous les deux extraits du troisième mouvement de la deuxième sonate de Prokofiev qui est au programme de votre récital à Salzbourg et que vous jouiez ici avec Martha Argerich, Renaud Capuçon à Lugano en 2015.
Thank you.
Extrait de la deuxième sonate de Prokofiev que vous jouerez donc avec Martha Argerich, Renaud Capuçon le 20 août à Salzbourg. Au programme aussi la sonate de Franck et la 8e sonate de Beethoven. Je voudrais que l'on revienne un peu sur la période du confinement. Sachant que vous faites énormément de concerts, eh bien vous avez énormément de concerts qui ont été annulés, 68 dates je crois entre mars et juillet. Votre festival, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, n'a pas pu se tenir en avril. Et très vite, donc dès le début du confinement, vous avez posté chaque jour sur les réseaux sociaux une vidéo de vous jouant une courte pièce. C'était, on l'imagine, bien sûr pour offrir de la musique dans ce moment compliqué, mais est-ce que c'était aussi pour vous une manière de conserver un rendez-vous quotidien malgré tout ? Avec le public d'une certaine façon, et avec votre violon aussi, parce que ça va de soi, mais jouer comme vous jouez, c'est énormément de travail, et quand tout s'arrête, il faut encore savoir pourquoi on travaille.
Oui, c'est complexe. Je pense que ça a été très instinctif. Ça a été instinctif en fonction du moment présent, qui était un moment où on était tous dans le brouillard total, il faut se remettre, même si on n'a pas envie d'y repenser, mais c'était quand même un moment extrêmement étrange. Et moi, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire jouer du violon. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai pris mon violon, mon fils m'a filmé avec un iPad sur un trépied les premières fois, et on s'était dit, lui et moi, à ce moment-là, je vais jouer tous les matins tant qu'il y a le confinement, pensant que ça durerait une semaine, 10 jours, 15 jours. Peut-être j'aurais pensé complètement différemment si on m'avait dit bon, maintenant, à partir de demain, pendant 56 jours, vous allez être enfermé. Très certainement, j'aurais pensé peut-être autre chose. Il s'agit simplement d'un, comme quelqu'un qui tombe à l'eau et qui attrape le bastingage. Moi, il se trouve que le bastingage, c'était mon violon. Et j'ai joué 5 minutes chaque jour. Je sais que ça a été très critiqué dans mon milieu parce qu'on a pensé que je voulais me montrer et exister, ce qui est totalement... très très loin de l'idée que j'en ai au départ, mais chacun pense ce qu'il veut. L'idée était vraiment, au fur et à mesure des jours qui passaient, d'offrir un peu de musique, et les messages que je recevais étaient tellement tellement forts et tellement sincères, et de remerciements de soignants, de jeunes, de moins jeunes. Voilà, ça m'a encouragé, et puis ça nous a fait passer comme ça 56 jours avec assez fort entre un public imaginaire, puisque je ne le voyais pas, mais il était quand même bien présent, et moi-même.
Et oui, et justement, nous parlions tout à l'heure du rapport avec le public. Là, effectivement, c'était tout autre chose, mais est-ce que cette expérience, ce moment, a modifié justement votre rapport au public ?
Modifié, je ne pense pas, mais ça l'a affermi, ça a donné, en tout cas quand je suis rentré sur scène pour la première fois devant un public vrai, enfin un public réel après toute cette période, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai réalisé à quel point ce public était précieux, ce public était essentiel à notre vie de musicien, et qu'on a beau jouer les plus belles œuvres du monde, de Schubert, de Fauré, de Brahms et de Saint-Saëns, ou je ne sais qui, dans notre chambre ou en petit comité, ça n'a rien à voir avec le fait de le partager. Et de le partager devant 100 ou 1000 personnes, le nombre n'a pas beaucoup d'importance, mais jouer pour soi, ça va 3 jours, mais c'est très très réduit.
Alors, il s'est passé aussi pour vous un autre événement durant cette période, Renaud Capuçon. Vous avez fait vos premiers pas comme chef d'orchestre avec l'orchestre de chambre de Lausanne. Ce sont des concerts, donc là aussi, qui ont été captés, diffusés, mais qui ont eu lieu sans public parce que c'était au printemps. Et depuis, en mai, vous avez été nommé directeur artistique de cet orchestre à compter de la saison 2020-2021, je crois. 21-22, oui, parce que 20-21, c'est la prochaine. Voilà, ça va vite, Renaud Capuçon, pour vous comme chef d'orchestre, comment vous abordez cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle activité ?
Je l'aborde avec beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup de je suis très très honoré que l'orchestre m'ait choisi, qui m'ait, parce que vous savez, un orchestre, c'est pas le fait du prince, c'est pas un administrateur un comité qui vous désigne, c'est vraiment l'orchestre qui vote. On se connaît depuis longtemps, mais c'est vrai que en tant que chef d'orchestre, enfin en tout cas sans mon violon à les diriger comme ça, c'était assez récent. Je l'aborde encore une fois avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux. Je travaille, j'étudie mes partitions, je suis en train de faire la programmation pour à partir de 2021 jusqu'à 2025, donc c'est énormément de travail. Et j'ai toujours su qu'un jour, j'étais attiré depuis 99, depuis qu'Abado m'a donné une baguette dans quelques secondes pour diriger l'orchestre Gustav Mahler, j'ai su que cette façon de faire la musique, qui était une autre que celle de faire du violon, mais qui était une continuation, parce que ça passe par les bras et par le corps et par l'âme, serait une chose qui ferait partie de ma vie. Mais je voulais pas le faire trop tôt. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que chaque fois qu'on me pose une question dans une interview, j'en parle. grave parce que c'est totalement en moi. Et je dis toujours, c'est trop tôt, ça arrivera à point nommé. Et puis il y a un moment où, voilà, où il faut quand même passer le pas et y aller, je dirais. Et donc, fort de cette expérience de 15 ans où j'ai beaucoup joué et dirigé du violon, comme ça se faisait à l'époque, et là j'ai franchi cette espèce de frontière de monter sur le podium sans mon instrument, ce qui est une chose totalement étrange pour moi. Et en même temps, j'ai l'impression d'être dans la musique comme jamais je l'ai été. Donc, je pense qu'il y a c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans ma vie. Et encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je serai extrêmement prudent. Je respecte trop les musiciens pour simplement être comme ça sur scène et dire voilà, je suis chef. Non, je suis un musicien qui apprend et j'apprends avec eux et on va apprendre ensemble. Et quand je dis apprendre, c'est simplement communiquer de façon différente. J'ai été avec mon violon pendant les 30 dernières années. Je continue bien sûr à jouer et je suis maintenant dans cette espèce de nouvelle peau que je prends de temps en temps pour être devant vous.
Vous continuez à jouer, vous continuerez à jouer et on va vous écouter encore un peu justement Renaud Capuçon avant de se quitter, le début de la sonate de César Franck que vous avez enregistré avec la pianiste Katia Bougnatichvili en 2014, c'est un disque Warner Classics. Extrait du premier mouvement de la sonate de César Franck que vous interprétez ici Renaud Capuçon avec Katia Bougnatichvili et qui est donc au programme de votre récital avec Martha Argerich le 20 août au Festival de Salzbourg. Alors bon festival, bon été et merci beaucoup
merci à vous.
D'avoir été avec nous ce matin sur France Culture, Renaud Capuçon.